Bonjour à tous, bonjour, bienvenue, Shavua Tov, ça y est, on est après Pessah, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Juste faites-moi un signe, comme ça sur l'ordinateur, pour me dire que vous êtes là, et comme ça, on peut commencer. Super Yaron. Tov. Eh bien alors, bonsoir à tous et à toutes. C'est parti pour notre étude. Ben, j'ai envie de dire, notre étude. Attends deux secondes. Ben alors, j'attends deux secondes alors. Un, deux. C'est bon, je peux y aller maintenant? Et alors, on va dire que je peux y aller. Donc, on revient dans notre étude du livre de Bereshit et on va reprendre donc, comme chaque semaine, notre étude. Voilà, Corona, pas Corona. Ça y est, nous, on n'arrête pas la Torah, on a fini la trêve de Pessah, et maintenant, on revient dans notre étude du livre Bereshit. On se rapproche de la fin, Rabotai. On se rapproche de la fin du livre de Bereshit. Et oui, nous sommes dans la paracha de Vayigash, l'avant-dernière paracha de la Torah, et si je ne m'abuse, avant Pessah, avant, lorsqu'on a terminé notre dernier cours, eh bien, on était arrivé aux agalotes, aux fameuses agalotes que Yaakov a reçues de la part de Yosef, qui a fait venir donc papa en Égypte. Et ces agalotes, eh bien, lorsque Yaakov a vu les agalotes, eh bien, il s'est rappelé de ce qu'il avait étudié avec son fils. Alors, je vous ramène simplement au verset. Alors, le verset est très exactement. Nous sommes au chapitre même par verset Aleph. Ok, chapitre même vav, verset Aleph. Pour ceux qui ont notre Chumash de Emouna, c'est page 186. Chapitre 46, verset 1. Ok? Alors, c'est parti. Donc, on a dit, Yaakov a reçu les chariots que Yosef lui a envoyés. Et on a rappelé ce que nos sages disaient. Alors, nos sages nous ont expliqué qu'il s'agissait de Egla à Arufa. C'est-à-dire qu'ils se rappellent que le dernier enseignement qu'ils ont étudié ensemble, il y a de cela pas mal d'années déjà, hein, de cela près de 13 ans, eh bien, c'était la sugya de Egla à Arufa. Et donc, Yosef a voulu faire un jeu de mots avec son papa Yaakov pour lui rappeler que c'est bien lui dont il s'agit. Et donc, lui disant, papa, regarde, tu te rappelles la dernière sugya, le dernier truc qu'on a étudié ensemble, Egla Arufa, eh bien, voilà pourquoi je t'envoie des agalotes. Bien que Egel et Agala, ça n'a rien à voir, mais c'est un jeu de mots. Et on avait expliqué, pour terminer notre cours de la dernière fois, hein, qu'en fait, il y avait un Midrash Temani, qui nous dit que ce n'est pas le jeu de mots qu'il a voulu faire passer. Car en fait, le dernier enseignement que Yaakov et Yosef avaient étudié ensemble était l'enseignement de la Géoula. Comment et quand doit se dévoiler la Géoula? Et donc, Yaakov lui a envoyé des agalotes parce que quand on parle de la Géoula, dans le Kaddish, on dit que la Géoula, elle viendra ba'agala ou bizman kariv. Ba'agala. Géoula, ba'agala en araméen. Et donc, il a fait le jeu de mots agala, agala. Et donc, c'est là que Yaakov se rend compte qu'il s'agit bel et bien de son fils Yosef, perdu depuis si longtemps, et ça y est, retrouvé. Et donc, comme Yosef est retrouvé, eh bien, l'union du peuple juif est récupérée. Et à ce moment-là, eh bien, le verset qui termine le chapitre même, hey, nous dit « Vatechi ruach Yaakov viem ». Yaakov, tout d'un coup, a retrouvé son ruach HaKodesh, a retrouvé sa grande dimension. Et c'est pour ça que le dernier verset nous dit, va Yomer Israël, Rav od Yosef ben Yichai, Elcha ve'erenu beterem amut. Tout d'un coup, Israël se réveille. Israël qui avait été plus ou moins en coma depuis 13 ans, depuis que Yosef avait été perdu. Il avait eu un sursaut lorsque Yehuda avait dit qu'il fallait ramener Binyamin et s'en était porté garant. Mais là, Israël se réveille et c'est Israël qui prend la décision de repartir en galoute. Après la galoute de la vanne, de partir en Égypte. Et donc voilà, nous pouvons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Verset Aleph du chapitre Memvav. ויישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. Et voilà, Yaakov s'en va à Beersheba, bon ben c'est le chemin, il veut descendre vers le sud pour pouvoir aller en Égypte, il passe à Beersheba. Il n'était pas obligé de passer par Beersheba, il aurait pu longer la côte, mais il décide d'aller à Beersheba pour pouvoir faire un sacrifice à Dieu, mais pas n'importe quelle façon de dévoiler Dieu. Et là, Elohe Aviv Yitzhak. Et oui, celui qui a fait de Beersheba son endroit, c'est bel et bien Yitzhak Avinu. Et Yitzhak Avinu, pourquoi est-ce que là, Yaakov fait un hommage au dieu de Yitzhak et non pas au dieu d'Abraham ve Yitzhak ? Eh bien, simplement parce que là, il s'agit de partir en exil. Yitzhak, lui, n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Il n'a pas eu la permission, il n'a pas permis à Yitzhak de partir. Et donc, il est ויישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה. Dieu se dévoile à Israël, comme on l'a dit. Seulement, c'est terriblement paradoxal, puisqu'il lui dit à Israël, et il lui parle pendant la nuit. Or, la nuit, c'est le moment de Yaakov. La nuit, c'est le moment de l'exil. Il parle à Israël, alors qu'il va l'accompagner en exil. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני. Et oui, il parle à Israël, mais il lui dit, tu sais ce que tu vas devenir, redevenir en exil, Yaakov. C'est-à-dire que tu étais Yaakov pendant 13 ans, mais tu n'aurais pas dû l'être. Pendant les 13 années où tu étais en Israël et que tu as perdu ton identité parce que Yosef n'était plus là, tu aurais dû rester Israël, mais tu n'arrivais pas à te comporter comme Israël. Là maintenant, tu vas devoir te comporter comme Yaakov. Tu voudras être Israël, mais tu seras Yaakov, Yaakov. Pourquoi deux fois Yaakov ? Eh bien, tout simplement pour nous dire que même s'il ne veut pas être Yaakov, il devra être Yaakov. C'est-à-dire que là, il voudrait rester Israël. Ça y est, maintenant, je suis redevenu moi-même. Eh bien non. En exil, tu resteras Yaakov. Tu resteras Yaakov quoi qu'il arrive. Et Yaakov le comprend, Israël le comprend, et donc il dit « Vayomer Ineni ». Ineni, je suis prêt à remplir cette mission. Je repars en exil. Mais n'oublions pas à qui Dieu s'est adressé. Il s'est adressé à Israël. Ce qui veut dire que Yaakov, lorsqu'il sera en exil et qu'il sera Yaakov, eh bien, il gardera toujours en lui ce petit côté Israël, cette petite flamèche qui, le jour venu, saura se rallumer. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שמה. Voilà, tout est dit. Dieu lui dit, voilà, je suis le Dieu qui est apparu à ton père, à qui j'ai dit, bon, c'est pas dit, mais c'est ce que ça veut dire, à qui j'ai dit, tu n'as pas le droit de descendre en Égypte. Je rappelle que Yitzhak aussi a vécu une famine et il voulait descendre en Égypte comme son père Abraham. Et Dieu lui avait dit à Yitzhak, tu n'as pas le droit de descendre en Égypte. Eh bien là, Dieu lui dit, Lamrot, bien que j'ai dit à ton père qu'il n'a pas le droit de descendre en Égypte, toi, tu vas descendre en Égypte, mais n'aie pas peur, car c'est là-bas que j'ai prévu de réaliser ben, la promesse que j'ai faite à Abraham de faire de toi un grand peuple. Eh oui. Et la promesse qu'il a été faite à Abraham, d'ailleurs, et à Yitzhak, et maintenant à Yaakov, même s'il avait déjà été faite, c'est de faire de nous un peuple juif. Et comble de la surprise, eh bien, ce peuple juif va naître en Égypte. Lama. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait-il en sorte que le peuple d'Israël naisse en Égypte ? Pourquoi ne pas nous faire naître en tant qu'identité nationale en terre d'Israël ? Mara ? Lamalo ? Mais c'est une grande question. Lamalo ? Quoi, ça n'aurait pas été plus beau que le peuple juif naisse en terre d'Israël ? Non, Bémet, il faut qu'on naisse en Égypte. Eh bien, oui, il faut qu'on naisse en Égypte. Lama, pourquoi enfin, en Égypte, on va voir pourquoi en Égypte, mais il ne faut surtout pas que l'identité nationale naisse en Eretz Israël. Lama. Eh bien, pour une raison très simple. Vous savez, les Français, l'identité française, s'est construite sur le sol français. La France, c'est une union de plusieurs identités qui vivaient au même endroit et qui se sont réunis en faisant une identité nationale, la France. Et c'est pourquoi, tout naturellement, eh bien, les Français appellent la France la mère patrie. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport de parent à enfant, enfin d'enfant à parent, par rapport à leur territoire. La France est la mère patrie, mère et père. En Allemagne, il s'agira de Vaterland. En Amérique, on parlera de Motherland. La mère patrie. Sauf que, eh bien, s'il s'agit d'un rapport de parent et enfant, eh bien, on ne peut pas être dans un rapport d'intimité. Parce qu'un rapport d'intimité entre parents et enfants, c'est terrible. C'est le complexe d'Oedipe. Tu veux coucher avec ta mère ? Chas v'shalom. Et donc, eh bien, je vous rappelle que notre lien avec la terre d'Israël est un lien non pas de parents à enfants, car notre mère patrie, c'est l'Égypte. Et d'après la halakha, on voit dans le livre de Bereshit, Alken yazov ish et aviv et imo, vedavak veishto, ve'elu basar echad. C'est qu'à un moment donné, l'homme, il doit quitter la maison parentale pour aller fonder son foyer avec sa femme. Et donc, il y a un issour de la halakha de retourner vivre en Égypte. Il dit le Rambam, tu as le droit de rentrer en Égypte pour faire pragmatia, faire du business. Ou alors, d'après notre allégorie, tu as le droit de rentrer chez ta mère manger un couscous Shabbat. C'est bien. Mais d'aller vivre chez ta mère, problème. Une fois que tu es marié, tu es marié. Et tu ne te maries pas avec ta mère. Donc, ici, qu'est-ce que cela veut dire ? Notre mère patrie, c'est l'Égypte. Notre mère patrie, c'est l'Égypte. Et c'est pour ça qu'il y a une grande incompréhension au niveau du mainstream israélien qui pense que Eretz Israël, c'est la molédette. C'est-à-dire, c'est mon lieu de naissance en tant qu'identité nationale. C'est faux. Notre mère patrie, notre lieu de naissance, c'est l'Égypte. D'ailleurs, c'est ce qu'on dira dans les prophètes par rapport à l'Égypte. On l'a lu à Pessah dans les Haftarot, que Dieu est venu prendre la vola kachat goy, mikerev goy. Il est venu sortir un peuple du ventre d'un autre peuple, comme un accouchement. Et on nous a sortis de l'Égypte. Donc effectivement, notre mère patrie, c'est l'Égypte. Quel est donc notre rapport avec la terre d'Israël ? Si ce n'est pas un rapport de parent à enfant, eh bien c'est un rapport, comme nous diront les prophètes, dans Tréhassar, de Baal ve'isha. Ve'arzi tibael. Il y a un rapport intime entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. C'est un rapport de homme et sa femme. Nous dira le Rav Kook dans le tout premier chapitre du livre Oroth que le lien qui unit Eretz Israël et le peuple d'Israël, c'est un lien qui donne la vie. Eretz Israël kshura bekesher chayim ima uma. Nous sommes liés par un lien de vie qui donne la vie entre le peuple juif et la terre d'Israël, c'est-à-dire un lien de parents et enfants. Et donc c'est pour ça que Dieu dit à Yaakov, n'aie pas peur de descendre en Égypte, car c'est là-bas, oui, là-bas que je ferai de toi un grand peuple. C'est le but du jeu. Il ne faut pas que l'identité nationale du peuple juif vienne au monde en Eretz Israël. Ok, alors tout va bien. Beseder. Anochi ered imcha mitzrayma. Je descendrai avec toi en Égypte, nous dit Dieu. Vanochi alcha gam alo. Et t'inquiète pas, c'est moi qui te ferai sortir. C'est-à-dire, c'est moi qui t'ai fait descendre, je descends avec toi, mais c'est aussi moi qui vais te faire sortir. En d'autres termes, nous dit ici Akadosh Baruch Hu, alors il n'a peut-être pas encore mis le nigoun là-dessus, mais là il est en train de nous chanter Veïshe Amda. Ah ben complètement. Eh oui, Veïshe Amda la avotenu velanu, shelo echad bilvad amad aleinu l'chalotenu, ve Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. C'est-à-dire qu'au final, Dieu nous dit, ok, je vais être avec toi dans cet exil, mais t'inquiète pas, je serai également avec toi pour la sortie de l'exil. Ve Yosef yashit yado aleinecha. Et ça, c'est pour réconforter Yaakov. Tu verras que c'est Yosef qui te fermera les yeux. Pendant toutes ces dernières années, Yaakov avait peur qu'il ne puisse pas être auprès de son fils Yosef lorsqu'il partira. Là, Kadosh Baruch Hu lui dit, calme-toi, Yosef yashit yado alenecha. Alors, une fois qu'on a dit cela, bah, c'est bon, on est bon. Vayakom Yaakov mi Be'er Sheva, vayisu bene Israël et Yaakov, Aviem, Ved Tapam, Ved Neshem, Baagalot, Asher Shalach Paro, Lasset Oto. Donc, ils sont partis avec tous les chariots, tout ce qui était prévu. Et ils croient être Miknehem, Ved Rerusham, Asher Achashon, Beret Kenan, Vayavor Mitzraima, Vayakov, Vechol Zaroito. Tout va bien. Ça y est, nous sommes en Égypte. C'est terrible. Regardez ce verset. banav, ou bene banav, ito, ou benotav, ou benot, ou besra, ou benot banav, vechol zaro, evi ito, mitzraim. Zéou. Yaakov, sur l'impulsion de Yosef, a réalisé le rêve de Yosef, de faire en sorte que tout le peuple juif se retrouve en exil. Oui, ça nous ramène au tout début de la parasha de Vayeshev, avec les rêves de Yosef. On avait dit que Yosef avait rêvé qu'il était le responsable de l'envoi du peuple juif en exil. Et ben voilà, c'est chose faite. C'est chose faite. Et nous avons donc ici droit à un verset terrible. Je vais vous le lire, mais il est terrible. Regardez. Verset Chet. Ve'ele shemot b'nei Israël abayim mitzrayim. Yaakov ubanav bechor Yaakov Reuven. Ce verset, il veut dire plein de choses. Mais d'abord, ça y est, Am Israël est en exil. Am Israël dans ses balbutiements, ce n'est pas encore le peuple juif, évidemment, parce qu'on a dit qu'il va naître en Égypte, mais c'est Béné Israël, c'est le futur du peuple juif. Ça y est, on part en exil. Et oui, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, il y a deux façons de réagir face à notre départ en exil. En fait, il y en a trois. Trois façons de réagir par rapport à notre départ en exil. Une façon qu'on pourrait qualifier d'orthodoxe, une façon qu'on pourrait qualifier, non orthodoxe, laïque, et une façon qui est la façon de la Torah. Vous remarquerez que la façon orthodoxe n'est pas la façon de la Torah. Alors, quelle est la façon orthodoxe? La façon orthodoxe de l'exil est de dire, maintenant que nous sommes en exil, eh bien, nous construisons nous-mêmes, avant même que les nazis le demandent, nous construisons nous-mêmes nos ghettos. Et nous faisons cela avec des barrières absolument incroyables. On ne se mélangera pas avec les goïms. On restera derrière notre forteresse. Que ce soit physiquement, on n'ira pas vivre avec eux. On ne s'habillera pas comme eux. On ne parlera pas leur langue. Et on gardera nos noms. C'est-à-dire, on ne s'assimilera absolument pas pour nous. Nous sommes là parce que nous sommes là, mais nous n'avons plus rien, n'avons rien à faire avec les goïms. Nous ne voulons aucun contact avec les goïms. C'est l'enfermement sur soi dans le ghetto. Il était très certainement nécessaire pendant les 1800 ans d'exil. Bonsoir Marc, Yosef, c'est mon histoire. Là, il faut que tu nous en dises un peu plus parce que je suis un petit peu perplexe. C'est plus strict comme comportement. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux dire. Donc, aide-nous, sois plus clair. En tout cas, avant que Marc nous réponde, je veux simplement vous dire. Donc voilà, il y a cette première version, c'est-à-dire l'enfermement à l'intérieur du ghetto. Je parle en yiddish, je m'appelle Berkovitch. Je ne m'habille évidemment pas comme les autres. Et voilà, je vis séparément des autres. Évidemment, peut-être que ça a été nécessaire pendant énormément de temps en exil pour ne pas sombrer. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas un idéal. Pourquoi? Ah d'accord, ok. Pourquoi ce n'est pas un idéal? Ce n'est pas un idéal pour une raison très simple. Parce que ça protège. Mais ça n'apprend rien. Il n'y a donc aucune valeur au fait que nous soyons en exil. Pour nous, à ce moment-là, l'exil n'est qu'un mauvais moment à passer. On met la tête dans le sable, on fait l'autruche et on attend que ça passe. Sauf que vous comprenez bien qu'attendre que ça passe, eh bien, ce n'est absolument pas ce qui va te permettre de réaliser le projet divin. Pareil pour notre corona en ce moment. Tu peux dire, moi, je reste dans ma maison, j'attends que le corona, il passe. Voilà. J'attends que le corona, il passe. De toute façon, je ne travaille pas, machin. Donc, voilà, je fais rien sur mon canapé de la journée. Mais tu n'as rien compris du corona, alors. Le but du jeu, c'est que maintenant que tu ne peux pas aller au travail ou que tu ne peux pas faire plein de choses que tu avais l'habitude de faire, eh ben, yala, au boulot. Essaye de prendre sur toi plein de choses, de faire ce que tu n'aurais pas pu faire avant parce que tu n'avais pas le temps, et ainsi de suite. Fais des choses. Profite. En d'autres termes, la première option de notre départ en exil ne voit pas dans l'exil quelque chose de positif. L'exil, c'est mal. Que les choses soient bien claires. Hein. L'exil, c'est mal. L'exil, c'est une clala, c'est une malédiction. C'est pas bien. Mais de dire qu'il n'y a rien à en tirer, c'est une erreur également. La deuxième façon de voir les choses, eh bien, c'est la façon qu'on a dit comme étant plus ou moins laïque, on va dire assimilationniste, de dire, bah, maintenant que nous sommes chez les goïms, eh bien, à Rome, comporte-toi comme un Romain. Et donc, bah, je vais m'habiller à la romaine, à l'égyptienne, je vais parler égyptien, je vais changer mon nom, parce que tu comprends. Je le dis souvent ces derniers temps, parce que c'était l'idée de Pessah, mais c'est quelque chose que je vis très profondément. Mais oui. Non, vous comprenez, on a beaucoup, beaucoup parlé de tous ces gens qui ont changé leur nom, qui sont le show business français, tout ça, de tous ces juifs qui ont changé leur nom parce que ça faisait trop juif ou que c'était pas assez accrocheur au niveau de la scène. Non, 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 non. Non, la vérité, non. Les noms de scène, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Ton nom, c'est ton histoire. C'est même plus que ça, on va le voir dans 2 secondes. Donc là, l'option assimilationniste vient dire tu pars en exil, bah deviens plus toi. C'est terrible. Parce que là, pour le coup, c'est sûr que tu vas rien réaliser du tout. Tu vas complètement te perdre et perdre ton identité. C'est ce qui est arrivé à Nahor, Betuel, Lavan. Et donc, vous avez compris qu'il y a une troisième chita, et c'est la bonne. C'est évidemment d'être séparé. Parce que tu ne peux pas t'assimiler complètement. Il faut se mettre des barrières face au goïm, bien évidemment. Mais ne pas penser que le fait que tu sois en exil n'est pas là pour t'apprendre quelque chose. Tu as quelque chose à apprendre de l'exil, et je dirais même plus, tu as quelque chose à apprendre des autochtones, des goïms qui sont chez eux en exil, qui ont une façon de voir le monde que tu n'avais peut-être pas. Et il y a des choses que tu vas pouvoir apprendre d'eux. Croyez-vous qu'on n'a rien appris de l'Égypte ? Croyez-vous qu'on n'a rien appris de Babylone ? De la Grèce ? De Rome ? De l'Europe ? Évidemment. Et donc, c'est la troisième version qui est la bonne. Être séparé tout en ayant une volonté d'apprendre, de recevoir des choses. Par contre, il te faut un masque. C'est le corona. Il te faut un masque pour filtrer. Il y a des choses que tu sont bonnes à prendre et des choses qui ne sont pas bonnes à prendre. L'air, il est bon à prendre. Le virus, il n'est pas bon à prendre. On a un masque, on filtre. C'est un peu shoot. Et donc, voilà. Elle est chez Mod Bene Israël Abaim Mitzrayma. Que veut dire ce verset ? Voici les noms des enfants d'Israël qui descendent en Égypte. Pas mal. C'est quoi les noms ? Eh bien, les amis, un nom, c'est un objectif. Shem, ça veut dire matara. Je fais cela au nom de. Au nom de, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'objectif. Oui, chacun d'entre nous, on doit essayer de voir quel est notre nom pour comprendre quel est notre objectif. Quel est notre idéal ? Vers quoi on tend ? Quel est notre rôle à jouer dans ce monde ? Ceux qui ont un nom qu'ils utilisent, qui est un nom français parce qu'ils sont nés dans une France où à l'époque la loi était de donner un prénom français, ils ont très certainement un nom également en hébreu. Je les invite à, s'ils peuvent se faire appeler par leur nom en hébreu, pourquoi pas, mais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il représente ce nom et comment une fois dans la journée, ils l'utilisent. C'est très important pour ne pas oublier qui ils sont, comme dirait le grand Mufasa Zatzal, lorsqu'il dit à son fils Simba, le roi lion, n'oublie pas qui tu es. Oui, je suis confiné avec mes enfants. Oui, quelqu'un a quelque chose à dire à cela ? Oui, on est tous dans le même cas, mes amis. En tout cas, essayez de comprendre de quoi il s'agit. Quel est mon nom ? Et celui qui n'aurait pas de nom, en hébreu évidemment, eh bien, qu'il en prenne un. T'as shoot ? Qu'il en prenne un, c'est chashuv me'od. Bémet, chashuv me'od, 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 me'od. Non, comment tu veux choisir ton nom ? Ça veut dire... Le meilleur truc, c'est comme tu veux. Sinon, appelle Rav Ben Ishai. Appelle-moi si tu veux que je te donne mon avis. À quoi le best-seller ? Mais prends un nom. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite histoire. Une histoire, plus ou moins personnelle. Personnelle comme ça, quoi. Vous savez, à l'époque du grand Rabbin Sitruk, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, donc je dis à l'époque du grand Rabbin Sitruk parce que je ne sais pas si ça a continué. il y avait en été un séminaire vacances, un séminaire comme ça pour les rabbins consistoriaux de France, quelque part dans la montagne en France. Ça parce qu'une année, mon oncle, le rabbin Bruno Fison, donc rabbin de son état, grand rabbin de la Moselle, donc a participé au séminaire. Il est venu avec sa femme et tout machin. L'invité d'honneur, ce cours de ce soir, est en rapport avec celui de ce matin. Tout à fait. Oui, sur le qui je suis, exactement. En tout cas, c'était pas du tout prévu, mais t'as raison. Mais qui t'sour, et donc mon oncle, l'invité d'honneur de cette année-là, c'était le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, qui était grand rabbin d'Israël, Rishon Etzion, le Rav Eliyahu. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, le grand rabbin d'Israël, le Rav Eliyahu, ce n'était pas seulement un grand possèque à l'Acha, ce n'est pas seulement un géant de la Torah, c'était un des plus grands maîtres de la Kabbalah, c'est quelque chose d'autre, quelque chose d'autre. Et après une conférence, eh bien, mon oncle avec sa femme, dans le jardin, comme ça, va trouver le Rav Eliyahu pendant l'une des pauses et lui dit « Kvod Rav, voilà, on aurait besoin de votre conseil. » Il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Voilà, ma femme ici s'appelle Cathy, mais elle n'a pas de nom en hébreu. Et voilà, on voudrait savoir quel nom lui donner. Qu'est-ce que vous en pensez, Kvod Rav ?» Et le Rav Mordechai Eliyahu ne connaît pas mon oncle. Il ne l'a jamais vu. Enfin, il l'a vu dans la conférence, mais c'est tout, quoi. Et il n'y avait pas de tag nominatif. Et même s'il y avait eu un tag nominatif, je peux vous assurer que mon oncle y aurait eu marqué « Rabbin Bruno Fison ». C'est comme ça qu'il se fait appeler. Bah, il se fait appeler comme ça, pas parce qu'il est fan de son nom Bruno, mais simplement parce qu'il est devenu rabbin d'une communauté dans laquelle il a grandi, et donc tout le monde le connaissait comme étant le petit Bruno qui courait dans les couloirs. Donc, si vous voulez, c'était compliqué de se la jouer, de changer de nom après. Mais toujours est-il que donc le grand rabbin Eliyahu ne connaît pas mon oncle. Il le regarde, il regarde sa femme, et lui dit « Bon, bah, tu sais quoi ? Je te fais une liste, tu choisis. » Il dit « Comment ça ? Ok. » Il dit « Bah, alors, tu choisis entre Chogla, Machla, Tirza, Milka et Noah. » Ok. Pourquoi cette liste-là ? Le Rav Eliyahu lui dit « Bah, enfin, ce sont les Benot Tselofrad. Ce sont les filles de Tselofrad. » Et là, mon oncle le regarde, lui dit « Oui, effectivement, ce sont les filles de Tselofrad, mais je veux dire, quel rapport ? Pourquoi ma femme devrait porter le nom d'une des filles de Tselofrad ?» Et là, le Rav Eliyahu regarde mon oncle et lui dit « Mais enfin, toi, tu t'appelles Pinchas. » Oui, le nom en hébreu de mon oncle, c'est Pinchas Israël. Mais il ne le savait pas, il ne devait pas le savoir. Il ne l'a jamais dit à personne. Enfin, du moins, là, dans cette conférence, dans ce voyage-là, il ne l'avait pas dit. Et ce n'était pas marqué sur son front. Le Rav Eliyahu, qui savait certaines choses, regarde mon oncle, il dit « Mais enfin, toi, tu t'appelles Pinchas. » Eh bien, voilà, ce sont les noms féminins qu'il y a dans la paracha de Pinchas, tout simplement. Et donc, finalement, ils ont choisi que ma tante s'appellerait Noah. C'est Dagamou. Mais comprenez de quoi on parle. Le nom, c'est ton identité profonde. C'est ton objectif, Rabotai. Lorsque tu portes le nom d'un des grands personnages du Tanakh, mais alors c'est à toi de jouer. Tu peux apprendre de ce personnage, soit pour embrasser les bons côtés qu'il a fait, évidemment, soit également corriger là où il fallait corriger. Eh oui, bien sûr. Donc, quand tu donneras le nom de ton fils, réfléchis. Réfléchis à qui tu veux qu'il ressemble. Moi, j'ai appelé mon fils Ouria Tzvi, au nom de mon grand-père, et également au nom de la terre d'Israël. La terre d'Israël s'appelle Eretz Tzvi, mais il s'appelle également Ouria. Et tout le monde me dit, ouais, mais c'est Ouria Achiti, le premier mari de Bathsheba, qui s'est révolté contre David, que David a dû tuer. Alors, c'est pas génial comme nom. Sauf que je leur dis, d'abord, si vous regardez dans les écrits de Rabbi Mordechai Yosef Leiner Baal Me'ashiloach Rabbi Miz Bitcher, un des grands maîtres de la Chassidut, eh bien, il va vous dire que celui qui a raison dans la machloquette entre David et Ouria, c'est Ouria, qui trouvait que David s'était ramolli, il n'allait plus au combat avec ses hommes. Et que donc, le seul tort de Ouria avait été de faire ça, d'avoir ces réactions-là dans le dos de David. Il aurait dû le confronter en face. Mais il est évident que lorsque Ouria dit à David, en refusant d'obéir à ses ordres, toute l'histoire de Bathsheba, bah, vous pourrez lire dans le Sefer Shmuel, lorsqu'il dit à David, comment est-ce que je pourrais aller dormir chez moi alors que mes hommes dorment dans la tente et sont en train de se battre ? Uria, c'est le symbole même de l'abnégation pour le peuple juif. Ça, c'est une chose. J'ai dit, vous savez, il y a un autre Uria hein, dans la Torah. Hein. C'est pas... Il n'y a pas que lui. Il y a aussi dans le livre de Néhémie. Il est l'un des Sarei à Torah. L'un de ceux qui va avoir pour rôle de réenseigner la Torah au peuple juif. Donc voilà, à toi de choisir. Et maintenant que tu n'as pas choisi ton nom, à toi de dévoiler quel est ton objectif. Ele Shemot Bene Israël Abayim Mitzrayim. Seulement, j'aimerais qu'on aille plus loin dans la compréhension de ce verset. Parce que le verset nous dit quelque chose de très clair. Ele Shemot Bene Israël. Voici le nom des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Et c'est qui ? Ça commence par qui ? Yaakov ou Banav ? Yaakov ou Banav, c'est-à-dire que Yaakov et ses fils sont parmi la liste de Béné Israël. Donc, semble-t-il que qui est Israël véritablement ? Vous l'avez compris, si Béné Israël, les enfants d'Israël, c'est Yaakov et ses fils, eh bien, Israël, c'est celui qui, évidemment, n'est jamais sorti d'Eretz Israël, c'est Yitzhak. Certes, Yaakov s'est fait appeler Israël officiellement, mais en potentiel, Yitzhak, c'est véritablement Israël. Et voici donc les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte, Yaakov, Banav, Bechor, Yaakov, Reuven. Pourquoi c'est important de nous le dire ? Bien, parce qu'après toutes les péripéties de ce qui s'est passé, Yosef, Yehuda, on aurait pu penser que Reuven est complètement mis de côté. Non, Reuven est toujours le Bechor de Yaakov. בני ראובן, חנוך ופלו וחצרון וכרמי. בני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר ושאול בן הכנענית. C'est qui ce שאול בן הכנענית, שאול fils de la cananéenne. Alors, je ne sais pas si Shabtai nous écoute, on avait déjà eu ce débat, mais d'après Rashi, eh bien, ce שאול fils de la cananéenne, ce serait le fils de Dina. Regardez, je vous lis ce que dit ici Rashi ben Akenaanit. Ben Dina, chez Nivala le Kenaani, que chez Argou, Shechem, et Shechem, c'est ça, lo aita Dina rotsa la tset, at chez Nishba lo Shimon, chez Isaena. En d'autres termes, Rashi nous dit que dans son union avec Shechem, Dina est tombée enceinte et elle a eu un enfant de ce Shechem qui s'est devenu ce Shaoul. Et on l'a appelé Ben Akenaanit parce qu'elle l'a eu avec un homme cananéen. Bon, nounou, Veshaoul Ben Akenaanit. Ou Ben Lévi, Gershon, ou Kehat, ou Merari. Ou Ben Yehuda, Er, ve Onan, ve Shela, ve Peretz, ve Zarach. Vayamot Er, ve Onan, ve Eretz Kenaan, ve Yup, ve Peretz, Retzron, ve Chamoul. C'est-à-dire qu'on nous dit que Yehuda, c'est tout Yehuda ça. Yehuda, il est passé par... C'est-à-dire qu'il a d'abord eu Er et Onan, ça n'a pas marché. Pour les raisons qu'on avait expliquées lorsqu'on a parlé de la parasha de Vayeshev. Mais on les cite pour dire que Yehuda, plus que n'importe qui, est capable d'apprendre de ses erreurs. Donc il y aura eu Er et Onan, Shela, qui est parvé comme ça, et ensuite Peretz et Zarar pour remonter le niveau. Vraiment, Er et Onan, Peretz Kenan, Vayu, Bene Peretz, Retzron et Chamoul, Bene Issachar, Tola, ou Poua, Veyov, ושימרון, ובני זבולון, סרד, ואלון, ויחליאל, אלה בני לאה, אשר ילדה ליעקב, בפדן ארם, ואת דינה ביתו, כל נפש בניו ובנותיו, 33. קול. 33, הנה. ובני גד, ציפיון, וחגי, ושוני, וחגי, שוני, ועצבון, ארי, וערודי, וערלי. ובני אשר ימנע וישבה וישבי ובריה וסרח אחותם. סרח, c'est cette fameuse jeune fille qui a chanté à Yaakov le fait que Yosef était toujours en vie, évidemment. ובני בריה חבר ומלכיאל. אלה בני זלפה אשר נתן ללבן וללאה, אשר נתן ללבן צריכה ללאה, ביתו, enfant de זלפה, donc, ותלד את אלה ליעקב 16 נפש. Deux secondes. Les enfants de Léa, c'était combien ? Je vais le refaire, mais cette fois, vous allez m'aider à compter. Alors, les enfants de Léa, ça commence avec Réhouven. On a Réhouven, D'accord ? Ensuite, on a Hanor, Palou, Hetzron et Carmi. Ensuite, on a Shimon, Yemuel, Veyamin, Veoad, Veyachin, Vetzora, Veshaoul. Ok. Donc, on est à combien ? 5 et 7, 12. Ok. Ubene, Lévi. Donc, on a Lévi, Gershon, Kehat, Umerari. 4. Donc, ça fait 16. Ok. Ubene, Yehuda. Er, Veonan, Veshela, Veperetz, Vezarach. Donc, on a Er, Yehuda, Er, Onan, Shela, Peretz, Zarach. On nous dit que le Bene Peretz, c'est Chetzron, Ve, Chamoul. 8. On était à 12, 16, et 8 maintenant, ça fait combien? Oui, bien sûr. Oui, ça fait. Merci, 24. Et donc maintenant, au Bene Issachar, donc Issachar, Tola, Upua, Veyov, Shimron. Donc on est à 5, 29. Ubene Zevulun, donc Zevulun, Sered, Ve'elon, Ve'achliel. Ça nous fait 4. 29 plus 4, 33. Et les Bene Léa, Asher Yalda, Léa, Kov, Bepadan Aram, Ve'dina, Bito. C'est 34. Kol Nefesh, Banav, Ubenotav, Shloshim, Ve'chalosh. Qui est-ce que donc n'est pas dans l'eau? Ben, très simplement, Shaoul. Puisqu'on a dit que Shaoul, il ne fait pas partie du compte. Puisque ce n'est pas le fils d'un des enfants de Yaakov. C'est le fils de Dina qui a été violé par Shrem. Donc c'est le fils de Shrem. Donc il ne compte pas. Tav. Donc on est à 33. On a déjà dû faire une combine. Ensuite, on nous parle des enfants de Zilpa. Alors allons-y. Gad, Tzifion, Vechagi, Shuni, Vehetzbon, Eri, Vearvodi, Veareli. On est à 8. Asher, Asher, Yimna, Yishva, Yishvi, Beria, Veserach, Achotam. Mais les enfants de Beria sont Chever ou Malkiel. On est aussi à 8. Donc là, ça colle. Ele Benezilpa, Shanatan, Lavan, Lele Abitor, Teled, Ele, Le Yaakov. Jusque-là, tout va bien. On est à 33 plus 16. 33 plus 16, ça fait combien? Oui, tout à fait. Oui, ça fait 49. Il y a fait mieux. Continuons. Bene Rachel, Eshet Yaakov, Yosef ou Binyamin. Jusque-là, tout va bien. Veivaled Yosef, Beretz Mitzrayim, Asher Yaldalo, Asnat Bat Potifer, Akohen Hon. Asher et Menashe et Ephraim. Donc Yosef, c'est Yosef, Menashe et Ephraim. 3. Fait meurt. Ou Bene Binyamin, Bela, donc on a Binyamin, Bela, va Becher, va Ashbel, va Gera, va Naaman, Echi, va Roche, Mupim, va Choupim, va Ard. 11. Et les Bene Rachel, Asher Yalade Yaakov, le Yaakov, Kol Nefesh, Arba Asar. 11 plus 3, ça colle. Donc, on est à combien maintenant des Sahakol? On était, je le rappelle, 33 plus 16, ce qui nous a fait un total de 49, plus, oui, on fait des maths ce soir, plus, on a dit ici, Arba Esre, donc ça nous fait un total de 63. Merci beaucoup. Donc, on est à 63. Ça fait merde. Inès, continuons. Ça va? Ou Benedan, Rouchin, ça nous a les enfants de Bilha. Donc, Dan, il a un seul fils qui s'appelle Rouchin, donc ça fait 2. Ou Bené Naphtali, donc Naphtali c'est 1, donc c'est 1. Ou Bené Naphtali, Yartzel, Veguni, Veyetzer, Veshilem. C'est-à-dire qu'il en a 4 plus 1, ça fait 5. Donc, on est à 5 plus. 2. Ele ben Bilha, Shanatan Levan le Rachel Bito, Vateledet Ele le Yaakov, Kol Nefesh Shiva. Ça colle. Ça colle, tout va bien. Donc, nous avons 33 plus 16, 49, plus 14. Oui, oui. Non, ça fait combien? On a dit 63 plus 7. Ah, c'est bien. Ça fait 70. C'est parfait tout ça. On est bon. On a le décompte. Les fameux 70, iné. Elle est bene bila. Kol nefesh abba le Yaakov mitzraima. Yotze yerecho. Milvad neshe bene Yaakov. Kol nefesh shishim vashesh. Hein? Comment? Toutes les personnes descendant de Yaakov qui arrivent en Égypte? Je ne comprends pas. Kol nefesh abba le Yaakov mitzraima. Yotze yerecho, qui sont ceux qui sont sortis de sa descendance. Sans compter les femmes de Yaakov, kol nefesh shishim vashesh, 66, ou bene Yosef, asher yulad lo be mitzrayim, nefesh shenayim, kol nefesh le bet Yaakov, abba mitzrayim, shivim. Mais ça ne va pas du tout. Là, on te dit, oui, Yosef, ses enfants, ils sont nés en Égypte, donc il faudra enlever et Yosef et Menaché et Ephraim. Donc, ça fait combien? Bah, en fait, tu dois enlever 3 déjà, sur les 70 qu'on a cités. Seulement, tu ne dois pas en enlever que 3, puisque Hervé et Onan, ils sont morts. Donc, tu ne les emmènes pas non plus. Ah ah. Donc, ça veut dire qu'il faut en enlever 5. Donc, tu n'as plus que 65. Donc, tu n'as plus que 66. Et puis, ils seront les 70. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce verset qui me dit? Le verset Kavzain, ou Bene Yosef, Zonad Mitzrayim Nefesh Naim, Kol Nefesh le Bet Yaakov Abba Mitzrayima, Shivim. Tout le nombre entier de ceux qui sont les enfants, les descendants de Yaakov qui arrivent en Égypte, sont au nombre de 70. Sauf que mathématiquement, c'est pas vrai. Et c'est même pas que j'ai fait un calcul, j'ai lu tout simplement les versets, j'ai compté. C'est-à-dire, je sais compter. Et je me rends compte que bah, c'est pas vrai. Zepachut l'onachon. Quoi, la Torah serait-elle en train de me mentir? Kara pachut. Problème. Comment est-ce que la Torah pourrait-elle... Il y en a peut-être qui sont nés entre-temps. Ah non, mais ça, c'est un autre problème. On va te dire que Yocheved, elle était née... Quand ils sont arrivés en Égypte, Yochevet, elle est née, mamash, la contraction, elles ont commencé quand ils étaient au dehors de la frontière, et elle est née dans la frontière. Mais là, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y en a pas assez. Le problème, c'est qu'on a décompté trop. Tu comprends? C'est-à-dire que la Torah me dit qu'il y en a 70 alors qu'il y en a 65. Où ils sont? Où ils sont ceux qu'on a comptés? Et pourquoi, si tu me dis non, mais on les a comptés de manière générale, alors pourquoi est-ce que la Torah me les a comptés comme étant ceux qui viennent en Égypte? Tu comprends? Bien, les amis, je vois que vous commencez à donner des réponses. Leur Neshama, on verra. Eh bien, je pense que vous connaissez d'ores et déjà ma réponse. Eh oui. Pour savoir pourquoi il y a eu ce bug mathématique, vous allez me dire peut-être que Yaakov n'avait pas fait de maths à l'école parce qu'ils étudiaient que la Torah, donc ils ne savaient pas très bien compter, peut-être, mais je ne crois pas que ce soit la vraie réponse. Et donc, eh bien, vous comprenez bien que pour pouvoir donner une réponse véritable à ce problème, eh bien, il va nous falloir une semaine de répit. Et c'est la semaine prochaine que nous répondrons à cette difficile et épineuse et mathématique question. Mes amis, Shavua Tov, à bientôt. Messieurs, ceux qui sont en ligne, nous nous retrouvons, nous recommençons l'étude du Kollel du mardi matin, dès mardi, 8h à 8h du matin. Alors, il y aura sûrement, enfin, il y aura Facebook, il y aura YouTube Live comme ici, donc j'enverrai le lien demain soir, mais il y aura peut-être également un moyen de se connecter par Zoom, ça, il faut voir avec la communauté de Emouna, je n'ai pas encore exactement la réponse, donc soit il y aura les deux, soit il y aura uniquement un truc. Quoi? Oui, c'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini pour des problèmes d'enfants. Ouais. Il faut gérer les temps des enfants et c'est insupportable. Il faut gérer toutes les différentes Zooms des différents enfants et qui n'ont pas de portable parce qu'on a décidé qu'ils n'avaient pas de portable à leur âge. Et donc, eh ben, il y a les Zooms de l'école et il y a le truc du sniff et il y a le truc du machin. Et donc, bah, les moyens de Zoomitude sont limités puisque j'ai l'ordinateur ici et il y a aussi un autre portable, machin, mais bon, c'est pas assez pour tout le monde. Rajoute à cela le fait que ma femme fait maintenant, là, dans 3 minutes, un cours de sport par Zoom, puisqu'on ne peut plus faire de sport en communauté. Donc, quand ma femme est prof de sport, eh bien, elle fait un cours de sport. Et Marc, non, toi aussi, je vois que tu as des problèmes de mathématiques, parce que le cours ne fait pas 30 minutes, le cours fait déjà 45 minutes et 50 secondes. D'après l'enregistrement de YouTube. Donc, je vois que, en fait, la Torah n'est pas la seule à avoir des bugs de mathématiques. Je vois que toi aussi, ou alors c'est juste parce que tu voulais être tellement humble et tu voulais ressembler à la Torah. Et c'est pour ça que tu as fait une erreur de calcul. Nous t'en remercions donc évidemment tous. Et en tout cas, donc, je vous dis pour le cours du dimanche soir à la semaine prochaine. Et pour messieurs qui veulent venir étudier mardi matin, eh bien, on se retrouve pour notre étude du mardi, hein, normal, classique. Le mardi, tout est permis, Pirkei Avot de 8 à 9, et ensuite, nous aurons un cours de Parashat Shavua, comme on fait chaque semaine. Le cours du mardi matin, c'est le cours du Kollel des messieurs. Voilà, donc ça, je ne sais pas s'il sera ouvert aux mesdames, mais en même temps, si c'est un Facebook, si c'est un YouTube live, bah, je peux empêcher personne de se connecter, donc, mesdames, si vous voulez, mais enfin bon... Enfin, vous serez peut-être un petit peu largué puisque on va suivre la suite de notre étude qu'on a fait déjà depuis quelque temps. Mais la briout, on va pas quand même pas dire non à la Torah. Voilà pour les infos. Alors à bientôt.